Nous, les êtres humains, sommes dans une situation embêtante en ce qui concerne les émissions de carbone. Notre alimentation, les biens que nous fabriquons, notre consommation d'énergie, beaucoup de nos activités produisent des émissions de carbone qui ont des répercussions sur l'environnement dans lequel nous vivons. Est-il possible de préserver notre qualité de vie tout en réduisant nos émissions de carbone? Nos scientifiques travaillent d'arrache-pied pour répondre à cette question. Restez à l'écoute pour savoir comment. Bienvenue à un nouvel épisode de La Science Simplifiée, le balado qui vous parle de l'excellent travail scientifique que font nos experts à Ressources naturelles Canada. Je m'appelle Joël Hull. Comme toujours, nous vous proposons un épisode passionnant. Nous vous parlerons de la gestion du carbone. Vous vous demandez ce que c'est? Eh bien voilà! La gestion du carbone consiste à prendre des mesures pour mieux contenir et réduire la quantité de carbone que nous rejetons dans l'atmosphère. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte. Ça vaut la peine d'écouter. Sur ce, accueillons maintenant notre invité. Nous avons avec nous Philippe Navary de Calmette Énergie à Varennes. Philippe, vous allez bien?
Oui, très bien, merci.
Super. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de vous?
Oui, bien sûr. Donc, j'ai une formation en génie chimique à la base avec une maîtrise, un doctorat dans le domaine. Puis, au début de ma carrière, j'ai travaillé plusieurs années dans le secteur privé sur des projets de recherche liés à l'énergie et à l'environnement pour différentes industries. Et puis, j'ai rejoint Calmette Énergie à Varennes il y a maintenant un petit peu plus de 22 ans, où je suis gestionnaire principal de projets de recherche dans le groupe Optimisation des procédés industriels. Donc, au fil des ans, au fil de ces 22 années, donc, j'ai travaillé sur différents aspects touchant l'efficacité énergétique, l'optimisation de la récupération de chaleur, dans les procédés industriels, l'intégration de nouvelles technologies dans ces procédés pour en améliorer la performance. Et depuis quelques années, je travaille plus spécifiquement sur les technologies de captage et le potentiel qu'offre le captage, l'utilisation et le stockage du CO2 comme stratégie pour la décarbonation des procédés industriels. Et puis, c'est une stratégie qui vient compléter d'autres stratégies sur lesquelles notre groupe travaille à Varennes, telles que, bien sûr, l'efficacité énergétique toujours présente, mais aussi l'utilisation de sources d'énergie à faible teneur en carbone, en particulier la biomasse, l'électricité, l'hydrogène. Et comme ces sources d'énergie sont en quantité limitée, donc il est important de déterminer dans quelles applications on devrait les prioriser et afin de maximiser l'impact, notamment en termes de réduction de gaz à effet de serre donc, qui nous intéresse donc, aujourd'hui.
Merci Philippe. Alors, tu as mentionné le CO2. Avant de rentrer dans les détails de la gestion du carbone, on devrait commencer par la base. On parle spécifiquement de quel type de carbone et pourquoi est-ce qu'on veut le gérer?
Ouf! Donc, ça, c'est une question bien vaste dont on pourrait parler longuement. Donc, vous savez que notre économie utilise de grandes quantités de ressources d'origine fossile non renouvelable, comme le gaz naturel, le pétrole ou le charbon, et qu'on utilise comme source d'énergie pour produire donc de l'électricité, de la chaleur dont on a besoin pour notre vie de tous les jours, mais également nos activités industrielles, qu'on utilise aussi comme carburant pour nos véhicules ou comme matière première pour de nombreux produits. Donc, lorsqu'ils sont utilisés comme source d'énergie, ces combustibles fossiles sont brûlés, et lorsqu'ils sont brûlés, ils relâchent l'énergie que l'on recherche, qui nous intéresse, mais ils sont transformés en dioxyde de carbone, donc le CO2 gazeux qui est émis à l'atmosphère. Et ce CO2 est un principal gaz à effet de serre dont l'accumulation dans l'atmosphère contribue au réchauffement planétaire et au changement climatique, que l'on observe donc de plus en plus un peu partout sur la planète, avec des périodes de sécheresse et leurs conséquences sur les réservoirs d'eau, les réserves d'eau qui baissent, la fonte des glaciers qui disparaissent progressivement, des incendies plus fréquents ou des épisodes orageux particulièrement intenses. Donc, lorsqu'on parle de gestion du carbone, il s'agit de réduire par toutes les façons possibles les quantités de carbone qu'on utilise et le carbone qui est utilisé et qui était transformé en CO2 pour éviter qu'il ne soit émis dans l'atmosphère, que ce soit donc en l'utilisant pour faire d'autres produits utiles ou en le stockant profondément dans le sous-sol. Donc, ça, c'est le stockage géologique. Vous voulez donc, en quelque sorte, le remettre là où il se trouvait avant son extraction, mais sous un autre format.
Qu'est-ce qu'on fait présentement au Canada quand ça vient à la gestion du carbone?
Alors, le Canada fait partie de ces 196 signataires de l'accord de Paris qui se sont engagés à mettre en place des mesures pour limiter collectivement, donc on n'a pas de cible bien particulière pour chaque pays, mais collectivement, donc ces 196 pays se sont engagés à limiter la hausse de la température moyenne à l'échelle planétaire, donc à 1,5 à 2 degrés, et à atteindre la carboneutralité à horizon 2050. Donc, au Canada, cela se traduit par la mise en place d'un certain nombre de mesures qui visent à atteindre la carboneutralité en 2050, comme j'ai mentionné, mais aussi à réduire donc à de 40% en dessous des les niveaux de 2005 pour 2030 comme étape intermédiaire. Plus spécifiquement encore, donc l'année dernière, le Canada a publié le plan de réduction des émissions pour 2030. C'est une feuille de route qui permet d'atteindre ses objectifs au moyen d'un éventail de mesures. Et en particulier, d'importants investissements qui se chiffrent en milliards de dollars sont dédiés à ce plan de réduction des émissions. Par exemple, pour financer la R&D sur des nouvelles technologies de l'énergie, également pour aider les industries à se décarboner en adoptant des procédés de fabrication moins énergivores, plus efficaces, et qui permettent de réduire de façon drastique leurs émissions. Le gouvernement met en place également des nouvelles normes et règlements qui vise à réduire l'intensité carbone de certains produits, en particulier les combustibles et les carburants, ou encore une tarification sur le carbone qui est émis à l'atmosphère. Donc, le tout visant à atteindre donc les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et la réduction, ultimement, la carboneutralité en 2050. Le gouvernement fédéral n'est pas le seul à agir dans ce domaine-là. Les provinces, bien sûr, les provinces et les territoires donc ont un rôle important et ils ont leurs propres objectifs de décarbonation et leurs propres plans d'action accompagnés de plans d'aide financière également et de gestion du carbone. C'est assez très important parce que chaque province et territoire a ses particularités, ses différences en termes de population, de géographie, de tissu industriel, de source d'émissions de CO2, également en matière de réglementation, par exemple donc sur le stockage géologique de carbone, qui n'est pas du tout homogène à travers le pays en fonction des provinces, des différences aussi en matière de sources d'énergie qui sont disponibles dans les différentes provinces, la part des énergies renouvelables ou le coût. Et ça, c'est très important que chaque province et territoire ait sa propre approche alignée sur l'objectif général du pays. Comme acteur, il y a aussi les universités, les groupes de recherche, les développeurs de technologies qui travaillent à comment utiliser au mieux les technologies existantes, mais aussi à développer la nouvelle génération de technologies encore plus efficaces, à moindre coût, qui peuvent s'appliquer donc à tout type d'usines à travers le pays, que ce soit des grandes ou des moins grandes usines que nous avons, puisque la décarbonation, la gestion du carbone, est une affaire de tous, donc qu'on soit un grand émetteur, un moyen émetteur ou un petit émetteur, il faut offrir des solutions donc à l'ensemble de du tissu. Et pour finir, il y a également donc les industries elles-mêmes qui se fixent des cibles de réduction de leurs émissions de CO2, qui ont leur propre plan d'action et qui cherchent à définir donc des stratégies de décarbonation. Donc en premier lieu, donc en réduisant le plus possible les intrants qui contiennent du carbone d'origine fossile. À cela va du changement technologique de procédé, au changement de source d'énergie pour de l'électricité décarbonée ou de la biomasse, par exemple. Et pour le CO2 qui est émis et qu'on ne peut pas éliminer par les mesures précédentes, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il faut le capter par une technologie qui est adaptée à l'usine, le transporter pour le transformer en d'autres produits à valeur ajoutée ou le stocker géologiquement de façon permanente. Et la question subséquente, je dirais, c'est où stocker de façon permanente, quelle est la capacité de stockage, pour combien de temps et comment serait l'y transporter. Donc, des grandes questions que l'industrie se pose et sur lesquelles, donc, nous, à Canet Energy, donc, on essaie d'apporter des solutions.
Il semble y avoir plusieurs parties impliquées dans la gestion du carbone. Ça a mentionné l'industrie, les provinces. Au point de vue fédéral, il y a plusieurs départements et agences fédéraux qui sont impliqués. Quel est le rôle spécifiquement de Ressources naturelles Canada dans l'ensemble?
Oui, c'est effectivement le cas. et notre ministère, donc à Ressources naturelles Canada, offre plusieurs programmes de financement pour des projets qui sont réalisés à l'interne, mais aussi, pour la grande partie d'ailleurs, des propositions de projets venant de l'industrie et de l'université lorsqu'il s'agit de certains projets de recherche. En plus de financement pour soutenir les projets en matière de gestion du carbone, Ressources naturelles Canada mène elle-même des activités de recherche et développement dans ces trois centres de Calmette Énergie dédiés à l'énergie. Alors moi, je travaille à celui de Varennes, qui est proche de Montréal. Les deux autres sont situés à Ottawa et à Devon, proche d'Edmonton. Donc, chacun de ces centres donc, a des domaines d'intervention particuliers et des expertises complémentaires. Devon travaille sur davantage sur les hydrocarbures, comment limiter leur impact et diversifier les débouchés donc issus de cette ressource dont les provinces de l'Ouest possèdent en grande quantité. Ottawa intervient dans des domaines très variés, allant du transport aux bâtiments, aux énergies renouvelables, mais également les systèmes énergétiques pour les régions éloignées et la gestion du carbone, donc bien évidemment. Et à Varennes, nous intervenons sur les bâtiments efficaces et intelligents, l'intégration des énergies renouvelables et l'optimisation des procédés industriels à faible émission de GES. Donc, il faut noter également que les centres de CEMAT, qui sont dédiés aux matériaux, et de Calmette Mines, qui sont dédiés au secteur minier, ont également des activités de recherche en lien avec la gestion du carbone. Puis nos centres sont amenés, bien sûr, à travailler ensemble donc sur des sujets d'intérêt commun afin de maximiser les synergies, comme c'est le cas avec Calmette Énergie Ottawa pour le développement des projets qui est le National CCUS Assessment Framework, qui est un projet d'envergure qui permet de définir quel est le potentiel offert par le CCUS et à quel coût pour une cible de réduction de gaz à effet de serre donnée, de mettre en place l'infrastructure nécessaire donc pour le transport du CO2 depuis les émetteurs jusqu'au site de séquestration.
Vous, Philippe, vous êtes chercheur. Quel genre de recherche est-ce que vous faites?
Je pourrais donner quelques exemples de recherches que nous réalisons dans le groupe optimisation des procédés industriels de Varennes. Donc, nous travaillons beaucoup sur, donc bien sûr, la décarbonation des procédés industriels. Donc, on utilise donc énormément la simulation de procédés, les analyses techno-économiques, les analyses de cycle de vie qui nous permettent de déterminer quel est l'impact d'une nouvelle technologie, d'un changement de combustible dans un procédé industriel ou dans une industrie au complet par des sources d'énergie décarbonées. Je le mentionnais précédemment, donc l'utilisation de biomasse, l'utilisation d'électricité, l'utilisation d'hydrogène dont on parle de plus en plus. Mais il faut savoir que ces sources d'énergie-là sont en quantité limitée et qu'il était absolument nécessaire de les utiliser au bon endroit pour avoir le maximum d'impact. Et tout ceci se fait à travers des mesures d'analyse en prenant en compte plusieurs critères d'évaluation. Et cette analyse de multicritères nous permet donc de dresser le portrait des feuilles de route déterminer des ordres de mérite sur les avancées technologiques en général, l'utilisation des sources d'énergie pour répondre à des besoins particuliers. Donc, pour ma part, je travaille sur plusieurs projets liés à la gestion du carbone. Je pourrais mentionner l'utilisation du CO2. Donc, une fois qu'il a été capté, ce CO2, ben, on peut, je le disais, soit le séquestrer, soit l'utiliser pour fabriquer d'autres produits. Comme type de produit que l'on peut fabriquer, on peut penser à des produits qui viendraient substituer ou en partie ou totalement le produit d'origine fossile qui est utilisé et pour lesquels, pour l'instant, il n'y a très peu d'alternatives, d'autres solutions. Donc, on parle très souvent du secteur de l'aviation, donc pour lesquels l'électrification, je dirais, des avions ou l'utilisation d'hydrogène n'est pas encore développée et ne sera pas avant pas mal d'années. Donc, on peut convertir le CO2 en carburant d'aviation synthétique qui viendrait remplacer une partie ou totalement le kérosène d'origine pétrolière qui est utilisé. Une autre application que l'on regarde dans mon équipe, c'est l'utilisation du CO2 pour fabriquer des plastiques et des polymères. Donc là aussi, remplacer les plastiques d'origine fossile. L'avantage, c'est qu'une fois capté, ce CO2 est en quelque sorte encapsulé, capturé dans la matrice du polymère, fait intégralement partie du polymère, et donc est sous forme solide et n'est pas réémis à l'atmosphère. Donc c'est une forme de séquestration sur une moins longue période que la séquestration géologique, mais au moins sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies. Et enfin, un grand projet que nous menons en collaboration avec le Centre de Climate Technology à Ottawa, qui consiste à développer donc une plateforme de modélisation et d'optimisation de la chaîne de valeur du CO2 depuis les sources d'émissions jusqu'au site de séquestration. Donc, qu'on nomme en anglais le National CCUS Assessment Framework, qui nous permet de répondre à différentes questions de comment relier les sources d'émissions au site de séquestration. Dans ce modèle, donc on prend en compte tous les modes de transport possibles, que ce soit par pipeline, par train, par bateau ou même par camion, ainsi que de nombreuses contraintes géographiques comme la nature du sol, les zones protégées, les cours d'eau, les routes, pour définir finalement le meilleur tracé qui minimise le coût de l'ensemble de la chaîne de valeur, donc qui inclut le captage, le transport et le stockage, de façon à pouvoir vraiment définir la meilleure stratégie pour cette filière de captage, stockage du carbone. Donc, cette infrastructure de transport de CO2 est à établir en grande partie, donc elle n'existe pas actuellement au Canada, et cela demande au niveau de collaboration, en particulier entre les provinces, car plusieurs régions de Canada ne disposent pas de sites propices au stockage géologique, là où se trouvent les sites d'émission. Donc, le CO2 va devoir être transporté sur d'assez longues distances entre les provinces et peut-être donc avec certains États américains, si cela est possible. Dans certains cas, des sites de séquestration au nord des États-Unis sont plus proches que certains sites de séquestration au Canada dans certaines conditions. Une partie du transport CO2 pourrait être réalisée par train parce qu'on a déjà un réseau, je dirais, ferroviaire qui est déjà bien établi, mais le coût est assez élevé. On pourrait utiliser aussi, réutiliser certaines infrastructures de transport de gaz non utilisées. Donc, en résumé, il n'y a pas de recette finalement unique en ce qui concerne la stratégie pour capter, définir où capter les émissions de CO2, où les séquestrer et par quel mode de transport les amener des émetteurs au point de stockage. Chaque région est un cas particulier, il doit être étudié au cas par cas, mais aussi dans un cadre un petit peu plus large, en regardant donc les voisins, donc les provinces voisines ou les États voisins américains. Et donc ça, c'est ça que vise le National CCUS Assessment Framework, c'est offrir une vision globale de ce que une infrastructure serait nécessaire en matière d'optimisation de la chaîne de valeur du CO2. D'apporter des réponses en termes de potentiel de réduction de gaz à effet de serre et de coûts pour la mise en œuvre de ces projets-là.
Wow, c'est vraiment une gamme variée et super intéressante comme recherche. Alors, avec tous les efforts qu'on fait ici à Ressources naturelles Canada et puis aux parties qu'on travaille avec, point de vue de la province, de l'industrie et nos partenaires à l'échelle internationale, c'est quoi qu'on veut accomplir avec la gestion du carbone? C'est quoi le but ultime?
Ben, le but ultime, c'est vraiment de rendre notre économie la plus carboneutre possible. On le sait, l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère a des impacts sur notre climat. L'impact sur le climat se traduit sur des dérèglements climatiques. Je l'ai mentionné précédemment, des feux de forêt qu'on connaît actuellement à grandeur du Canada, des inondations très importantes ailleurs dans le monde, une multitude de tornades qui se développent, la disparition progressive de nos glaciers. Il faut absolument donc limiter le plus possible ces émissions, l'accumulation de CO2 dans notre atmosphère, et c'est la raison pour laquelle toutes ces économies, tous ces pays se sont engagés vers dans la voie de la carboneutralité, donc d'ici 2050, parce que en fin de compte, je dirais, le but ultime, c'est de préserver la qualité de la vie sur, simplement sur la planète.
Alors, si nos auditeurs souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur la gestion du carbone, avez-vous des ressources en ligne à leur recommander?
Alors, je dirais, la plupart des ministères du gouvernement fédéral ont, que ce soit Ressources naturelles Canada, que ce soit Environnement, Changement climatique Canada, et d'autres ont de l'information donc sur les actions prises par le Canada pour gérer le carbone, réduire donc les émissions de gaz à effet de serre au niveau provincial également. Donc chacune des provinces, je le mentionnais, dispose donc de sites internet donc décrivant donc la stratégie de gestion du carbone et l'ensemble des programmes qui sont disponibles. Puis également donc au niveau international, donc il y a différentes sources d'information. L'Agence internationale de l'énergie, donc qui est un portrait plus global à l'échelle de l'ensemble des économies mondiales, donc est une source inépuisable d'informations sur la gestion de carbone. Ils font ça depuis des dizaines d'années. Il y a également d'autres initiatives comme Mission Innovation qui reprend également donc toutes sortes d'activités liées à la gestion du carbone dans différentes économies, différentes provinces, en particulier pays, en particulier le Canada. Chacune de ces entités dispose de sites internet où trouver de l'information pertinente sur le sujet.
Alors, c'est parfait. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Nous avons une relation très complexe avec le carbone et je crois que Philippe l'a très bien détortiqué pour nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la gestion du carbone et les émissions, nous vous invitons à consulter les liens figurant dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires ou partager l'épisode sur les médias sociaux. La Science Simplifiée a aussi un site web et une chaîne YouTube que je vous recommande de visiter. Nous avons des articles et des vidéos intéressants sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Les liens se trouvent également dans la description de notre épisode. Merci de votre écoute. Ne ratez pas notre prochain épisode.